Quel Royaume, c'est à vous.
Merci Vincent Dublange. RFI Matin continue et tout de suite les sports. Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour Julien.
Le football, c'est l'affiche du jour en Première Ligue. Manchester City accueille Chelsea pour la 23e journée. Peut-être l'occasion d'une première apparition de la nouvelle recrue égyptienne des Citizens.
Omar Marmouche, l'attaquant de 25 ans, transféré cette semaine de Francfort, moyennant 72 millions d'euros, très attendu pour relancer les quadruples tenants du titre en très petite forme en championnat et toujours pas assuré de poursuivre la Ligue des Champions dans quelques semaines après leur défaite au Paris Saint-Germain cette semaine. Omar Marmouche arrive de Bundesliga avec des statistiques élogieuses, 20 buts et 14 passes décisives depuis le début de la saison. Il est surtout impatient d'entamer ce nouveau chapitre.
I'm really excited. I can't wait.
Je suis très excité, j'ai hâte de faire mes débuts sur le terrain. Je sors de deux très bonnes saisons, mais c'est juste un début pour moi. Ici, je vais travailler avec Pep Guardiola. Il m'a recruté et j'en suis très honoré. C'est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Un entraîneur qui sait faire progresser ses joueurs. J'ai beaucoup à apprendre de lui, mais aussi d'Erling Haaland, mon nouveau partenaire d'attaque. C'est une machine à but. J'espère que je lui donnerai beaucoup de passes décisives et qu'on fera une bonne paire. Tous les deux.
Like you said, and hopefully we will enjoy playing together.
Omar Marmouche, nouveau pensionnaire de Manchester City, qui accueille Chelsea à partir de 17h30, temps universel. En Ligue 1, l'ouverture de la 19e journée hier, avec un nul 1 partout entre Auxerre et Saint-Etienne. Ouverture du score bourguignonne, signée de l'Ivoirien Ahmed Traoré. La Ligue 1 où Andy Delors, figurez-vous, est pressenti pour faire son retour. L'attaquant international algérien de 33 ans, actuellement au Mouloudia d'Alger, est en effet dans la liste des possibles recrues de Montpellier, où il a déjà joué de 2018 à 2021, le club héraultais, bon dernier au classement, cherche à pallier le départ imminent du Nigérian Akor Adams au FC Séville.
À la une également le handball et les Égyptiens aux portes des quarts de finale du Mondial 2025.
C'est presque comme si c'était fait pour les champions d'Afrique, vainqueurs hier à Zagreb de la Slovénie d'un cheveu, 26 à 25 pour le deuxième match du tour principal. Ce succès les maintient à la deuxième place qualificative de leur groupe, derrière la Croatie et devant l'Islande, ces trois sélections étant à égalité de points. A priori, le Cap-Vert, dernier adversaire demain des Pharaons pour cette phase, est d'ores et déjà éliminé, ne contrariera pas le destin des Égyptiens et l'optimisme de leur ailier Mohamed Sanad, ravi d'avoir fait le plus dur en dominant les Slovènes.
Ça nous donne beaucoup de motivation, de soulagement et maintenant, on peut dire on est qualifié, on attend pour savoir dans quelle position on finit, première ou deuxième et voilà.
Il y a quand même ce dernier match face au Cap-Vert, ce duel 100% africain.
Bien sûr, il y a tout le respect pour le Cap-Vert et on va jouer ce match pour gagner aussi.
Il y a une préférence dans la position de terminer premier ou deuxième.
De toute façon, un quart de finale, c'est un quart de finale. Donc, dans tous les cas, contre qui tu joues, ça sera une grosse équipe. Bien sûr, tout le monde préfère finir première, mais un quart de finale, c'est un quart de finale. Tout peut se passer.
Mohamed Sanad avec Marco Martins à Zagreb. Aujourd'hui, la Tunisie en finit avec son tour principal en affrontant l'Allemagne, mais sans autre but que de finir la tête haute, les Aigles étant déjà hors course. Et puis la NBA qui refait le show ce soir à Paris-Bercy avec la revanche du match de jeudi entre les Spurs de San Antonio et les Indiana Pacers du Camerounais Pascal Siakam, coup d'envoi 17h temps universel.
Merci Christophe Diremzian.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Roem.
Et à la une ce matin, une nouvelle étape dans l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur dimanche dernier dans la bande de Gaza. Le Hamas doit libérer aujourd'hui 4 soldates israéliennes otages à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Israël relâchera en échange plusieurs dizaines de Palestiniens détenus. Et l'État hébreu qui, dans le même temps, met à exécution ses menaces contre l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, sommée de quitter Jérusalem d'ici le 30 janvier, y compris sa partie est, secteur palestinien occupé et annexé par Israël. Tel Aviv accuse l'UNRWA d'être infiltré par le Hamas et affirme que certains de ses employés ont participé aux attaques meurtrières du 7 octobre. Une enquête interne n'avait pourtant révélé la présence que d'une dizaine de personnes liées au Hamas sur 13 000 employés de l'agence. Et puis aux États-Unis, le nouveau ministre de la Défense, Peter Hegseth, confirmé de justesse par le Sénat. Il a fallu le vote du vice-président J.D. Vance pour faire la différence. Ancien animateur de Fox News, Peter Hegseth s'est notamment illustré en s'opposant à la présence des femmes dans les rôles de combat au sein de l'armée américaine. Sur ce volet, justement, l'administration Trump a demandé hier le licenciement des fonctionnaires américains chargés de promouvoir la diversité. Et puis le nouveau chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, annonce le gel de la quasi-totalité des aides à l'étranger des États-Unis, le temps d'un réexamen complet, à l'exception de l'aide fournie à l'Égypte et à Israël, et de l'aide alimentaire d'urgence. Bonjour Catherine Potel.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse internationale avec vous et à la une, les combats dans l'est de la République démocratique du Congo.
Le Congo s'embrase, l'international s'en mêle, titre Le Soir, qui met en une la photo d'un marché plongé dans l'obscurité après les dommages causés à une ligne électrique lors de violents combats. À Goma, tous aux abris, poursuit le quotidien belge. Une grande partie de la ville est privée d'eau et d'électricité, la connexion internet est perturbée, les mobiles sont aléatoires, les commerces tournent au ralenti et les activités scolaires sont suspendues. Contrairement aux prévisions, ajoute Le Soir, la ville de Sake, elle-même située à 28 km de la capitale du Nord Kivu, résiste toujours aux assauts et les combats y font rage. Les civils de Goma sont surpris par l'ampleur du déploiement militaire qui prend la direction du Nord. Des blindés, des lance-roquettes et même des unités parachutistes en tenue de combat. Tout se passe comme si Kinshasa mesurait que la chute de la capitale du Nord Kivu aurait un impact considérable à travers tout le pays. Sur le plan international, enfin, un nouvel acteur s'est invité sur une scène où l'on avait attendu en vain un effort européen, poursuit Le Soir. Ce nouvel acteur, c'est le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il assure que la Turquie est prête à apporter toute l'aide nécessaire pour résoudre la crise.
À la une de la presse internationale également, Catherine, les dernières décisions de Donald Trump aux États-Unis.
Et particulièrement les décisions qui concernent les immigrants. Les responsables de l'administration Trump suspendent les programmes d'accueil des immigrants, y compris des Ukrainiens, regrette le New York Times. Sont visées, nous dit-on, plusieurs initiatives qui permettaient aux migrants d'entrer temporairement dans le pays, ce qui bloquera l'entrée de personnes fuyant certaines des régions les plus instables et les plus désespérées du monde. Outre l'Ukraine, poursuit le New York Times, ces programmes ont ouvert la voie à des immigrants en provenance de Cuba, d'Haïti et du Venezuela, entre autres. Des immigrants qui ne sont donc pas les bienvenus alors que la Maison-Blanche met en scène les arrestations, accuse le quotidien canadien Le Devoir, avec une photo montrant plusieurs femmes et hommes sortant d'un avion militaire à leur arrivée au Guatemala. Nous sortons les pires criminels du pays, a assuré Donald Trump, alors que la Maison-Blanche s'est targuée d'avoir lancé l'opération d'expulsion de masse la plus grande de l'histoire.
Et puis en Israël, la presse parle des 4 otages qui doivent être libérés aujourd'hui par le Hamas.
Il s'agit de 4 jeunes femmes, des observatrices de l'armée israélienne qui étaient postées près de la bande de Gaza pour observer les mouvements côté palestinien. 15 autres femmes, également observatrices, ont été tuées lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Le quotidien Haaretz rappelle que l'enlèvement d'une des 4 jeunes femmes libérées, Nahama, 20 ans, avait été filmé, la montrant en train d'être extraite d'une jeep sous la menace d'un pistolet, avec son pantalon couvert de sang, pieds nus et boitant. Haaretz évoque également le cas de Daniela, âgée de 20 ans, qui elle aussi doit être libérée et dont une vidéo avait été publiée par le Hamas en janvier 2024. Sa mère avait alors déclaré « Imaginez que c'est votre fille, votre petite fille entre leurs mains. Nous savons exactement ce que les terroristes du Hamas ont fait le 7 octobre. Je ne veux pas imaginer ce qui se passe là-bas. » Enfin, Karina, 20 ans, elle aussi doit être libérée aujourd'hui, rappelle Haaretz. Elle avait envoyé pendant sa détention un message à sa sœur qui disait ceci, si je ne vis pas, prends soin de papa et maman pour le reste de tes jours. Ne sombre pas, vis.
La revue de presse, signée Catherine Potet. Merci beaucoup. Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquerel-Rohem.
Pourquoi donc les dirigeants congolais peinent-ils autant à mobiliser la communauté internationale, y compris l'Afrique, en faveur des sanctions contre le Rwanda pour son soutien au M23, alors que la collusion entre Kigali et le M23 semble attestée par les Nations Unies ?
À l'évidence, aucun pays ne voudrait se brouiller avec Paul Kagame pour faire plaisir à Félix Tshisekedi. Non pas qu'il conteste la responsabilité du Rwanda dans cette rébellion, mais il se trouve que le dirigeant rwandais a acquis sur l'échiquier africain une envergure telle que nul n'ose l'embarrasser pour juste contenter les Congolais. Tous ont conscience que nous vivons une ère d'injustice auxquelles les États réagissent, non pas en fonction de la nature ou de la gravité des faits, mais en fonction du poids ou de l'importance de ceux qui les commettent ou les subissent. plutôt que de s'agacer de l'indifférence bienveillante de la communauté internationale vis-à-vis du Rwanda, Félix Tshisekedi devrait peut-être convaincre son peuple de ce que le chemin de l'honneur pour les Congolais est de défendre leur patrie. Au regard des enjeux, les Congolais seraient bien naïfs de croire que des sanctions suffiraient à dissuader Paul Kagame de soutenir le M23, que le ministre congolais de la communication lui-même qualifie de pantin.
Mais comment combattre un M23 dont les forces semblent plus aguerries que l'armée congolaise ?
Peut-être en redoublant d'efforts, de détermination et de sérieux, que le Rwanda, pays de 14 millions d'habitants, tienne en respect la RDC et ses 102 millions d'âmes est une anomalie, et que les rebelles du M23, même soutenus par les quelques 33 000 hommes de l'armée rwandaise, parviennent à mettre en difficulté l'armée de RDC et ses 134 000 hommes, est une autre preuve des insuffisances d'un leadership systématiquement défaillant dont Félix Tshisekedi n'est que l'impuissant héritier. Mobutu Sese Seko ne se souciait que de sa sécurité personnelle et sa tristement célèbre division spéciale présidentielle, plus prompte à massacrer les étudiants sans défense qu'à défendre la patrie, a été incapable de lui sauver la mise lorsqu'en 1997, Laurent Désiré Kabila, porté par les troupes rwandaises et ougandaises, l'a renversé. Mais cette chute de Mobutu partait d'une faute politique. Comme partout où des nationaux vont chercher des mercenaires ou des armées étrangères pour conquérir le pouvoir ou le conserver. D'ailleurs, lorsque, n'en pouvant plus de la tutelle de ses parrains rwandais ou ougandais, Kabila a voulu s'en émanciper, il a eu droit à une suite de petites guerres, un assassinat, puis des générations spontanées de rébellion dont le M23 n'est que l'ultime succès d'année. Et chaque fois, les dirigeants ont appelé au secours des voisins qui se sont révélés être de gloutons prédateurs, trop heureux d'avoir table ouverte au festin du sous-sol congolais.
N'est-ce pas un peu cruel, Jean-Baptiste, de suggérer que les prédateurs ont été conviés par les Congolais eux-mêmes ?
Toute l'Afrique crierait à l'impérialisme si des Chinois, des Français ou des Américains s'introduisaient dans tel pays africain pour extraire les minerais de son sous-sol sans autre forme de procès. Que l'Afrique se mure dans le silence pendant que d'autres nations africaines pillent impunément la RDC scandalise d'autant que d'authentiques chantres de la souveraineté africaine justifieront leur coupable cupidité par l'incapacité des leaders congolais à faire le bonheur de leur peuple en dépit de toutes ses richesses. En RDC, les guerres sont aussi juteuses pour les prédateurs qu'elles sont sanglantes pour le peuple. Et la fâcheuse tendance de nombre de dirigeants politiques congolais à confisquer personnellement une part de la richesse nationale n'est au fond qu'une autre guerre des politiciens contre leur propre peuple. D'où la perplexité des Congolais lorsqu'ils entendent ces mêmes dirigeants dénoncer le pillage de leur richesse par tel ou tel voisin. Pour convaincre de la sincérité de leur révolte, il ne reste plus à ces politiciens qu'un sursaut de probité dans la gestion de la part qui échappe aux étrangers. Ainsi, leurs concitoyens pourraient un jour dire que les prédateurs nationaux, eux au moins, savaient voler avec empathie.
Jean-Baptiste Placa, merci beaucoup. Et bientôt 6h en temps universel sur la radio du monde. Un peu de musique et le chanteur New Wave français Lescope. Son titre « L'hiver sur tes lèvres » est dans la sélection du mois d'RFI.
Je sentais l'hiver sur tes lèvres à chaque fois que je t'embrassais. Moi je rêvais sur la grève mais la mer montait. Soleil couchant
Futuroscope, l'hiver sur tes lèvres, à retrouver dans la sélection du mois d'RFI sur musique.rfi.fr. Et le journal dans moins d'une minute. À tout de suite.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Les milieux économiques attendaient avec impatience les premières annonces du président Donald Trump. Quelles conséquences pour les Américains dans la lutte contre l'inflation, pour leurs voisins canadiens dans la guerre commerciale qui s'engage, pour les Européens et les Africains en recherche de collaboration? On en parle avec nos invités.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.